Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui bimensuel BD podcast, le club A1O. Bienvenue et bonjour!
Vous comprendrez après, hein, parce que sinon, là, vous vous dites, ça y est, voilà. Il a pété un boulon. Quand même.
Ça sera beaucoup plus clair pour vous quand vous en serez à 27 minutes 35. Donc,
Elle va être longue, cette émission.
Bonjour
à tous, déjà, et puis, surtout...
Voilà.
Meilleurs vœux, même pas joyeux Noël, même pas pour la nouvelle année. Mmh. On l'a déjà fait.
Mmh. Voilà, on peut noter quand même que pour bientôt, il va y avoir un grand événement dans le monde de la BD, vers la fin du mois.
Pour nous
dans le monde de la BD,
oui,
de façon générale.
Les One A Club vont se terminer, les One A Club Awards, bien sûr. Et nous aurons des invités prestigieux.
Hein oui. On est en train de dire n'importe quoi, parce qu'en fait, t'es pas parti dans le sens que je voulais. Ouh, le démarrage. Bon, voilà, je voulais dire que c'était Angoulême, mais en fait, non, c'est pas Angoulême, c'est mon anniversaire. Mais bon, c'est pas grave. Et les One A Club Awards, oui, c'est fini, on a les résultats. Et
Garth Ennis va venir directement recevoir ses prix à la maison. Non.
Non. Pas dans le sens. Alors, les One A Club Awards, nos prix un peu bizarres, c'est fini. Tu peux sortir ta fiche, comme ça tu vas pouvoir faire en même temps que moi, à moins que je les ai toutes récupérées. Non,
en fait, t'as tout gardé, tu vois, c'est ça qui est drôle.
J'ai tout gardé, bon, c'est pas grave.
Si, attends, j'ai une feuille blanche. Ouh.
Bon, et donc, au niveau des votes, alors on va commencer par ceux qui ont eu le moins de votes.
Bon, alors déjà, par contre, merci, parce que franchement, ouais, J'étais impressionné par le nombre de votes.
Oui. Alors, on va commencer par les petits timides. On a eu que 35 votes pour le prix Chapiteau de la BD pour se rincer l'œil.
Bah alors, c'est quoi ça, les gars? On a honte,
hein? Bah ouais.
Bah oui, des fois, on lit aussi de la BD pour se rincer l'œil.
Faut savoir assumer.
Et on l'assume.
Et avec 37% des voix, c'est le Scorpion qui a gagné, effectivement. Les magnifiques demoiselles et dames de Marigny sont un plaisir pour l'œil. Spider-Woman n'était pas loin. Effectivement, la Spider-Woman de Malev est à quelques arguments de poids.
Disproportionné.
Donc, bravo au Scorpion et à Marigny pour son dessin admirable. Nous enchaînons.
S'il le souhaite, il peut nous envoyer d'ailleurs...
une des jeunes filles dans cette... qui lui sert de modèle.
Un des modèles. Non, moi je pensais juste à une image dédicacée. Oui. Merci les gars pour ce prix, c'est la première fois qu'on m'en donne un.
Ouais.
Non, tu crois pas, toi.
Égalité ensuite, en nombre de votants. On va commencer par le prix Larmounette de la BD qui fait pleurer. Et là, alors, ça a été une explosade par Y, le dernier homme, qui se chope 39% des voix. Il y a quand même 11 votes d'écart entre lui et le second, ce qui est assez énorme. Et pourtant, les personnes, les BD qu'il y a juste après sont au coude à coude, quoi. Mais apparemment, la fin d'Y, le dernier homme, on a touché plus d'un.
Ouais, le dernier tome, quand même, tu te fais 10 pages, tu verses une larme, 10 pages, tu verses une larme, quand même.
J'ai un ami à qui je l'ai prêté, quand je lui ai dit qu'il était dur, il me disait « ouais, il a fait, ah ouais, quand même ». Voilà. Nous suivent le prix de la BD à peu près historique. Et là, ça a été mais serré au plus haut point. On a eu un duel entre la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Century 1910 et la Brigade Chimérique. Je pense que j'ai un peu influencé le vote lors de la précédente émission.
Non, t'as pas exprimé ton avis, on va dire.
Et c'est la Brigade Chimérique qui gagne avec 39% des voix, contre 33% quand même pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, 3 votes d'écart.
Ça a gagné.
La France a gagné. Voilà, merci, parce que franchement, au niveau effectivement de l'à peu près historique, c'est super intéressant et très bien mené, la Brigade Chimérique. Ça vaut le coup. Le vote suivant avec le prix Brutal de Luxe. Et là...
C'est qui le plus fort?
On a un petit souci.
Mais en même temps, moi, j'ai un petit souci, mais surtout, j'ai une grosse surprise.
Ah.
Parce que, bon, très honnêtement, c'est qui le plus fort? The Goon. Il est balèze quand même.
Ouais, c'est un bourrin, il est costaud.
Non, ah, il est balèze. Puis en plus, il est fin quand même dans son raisonnement. Des fois. Et je me suis retrouvé à me retrouver. Voilà, il y a l'Invincible qui est ex aequo avec The Goon.
C'est de la BD de qualité quand même, Invincible. Hein.
C'est de qualité, mais je l'aurais vraiment pas vu dans qui c'est le plus fort. Parce que bon, Invincible, du coup, il bat quand même Cerebus, Spider Jérusalem, Buffy, Savage Dragon et X-Cop.
Enfin, Buffy, ça te plaît pas la BD, mais elle est balèze quand même.
Ah oui, mais elle est balèze, mais justement, tu vois, Spider Jérusalem, Cerebus.
Oui. Oh, non, non, Europe, donc une égalité entre Invincible et The Goon.
28% chacun.
C'est joli, quoi. Voilà, j'ai essayé de pousser un peu les gens pour essayer de les départager, de booster les votes sur la fin, mais ça a été un échec. Mais ce n'est pas grave, car en termes de nombre de votes, nous avons encore des ex-aequo avec le prix toilette de la BD Pas prise de tête. Vous étiez 60 à avoir donné votre avis. Et là, malgré que Ultimate Tout a essayé de se faire sa place, a essayé de résister pendant un moment, ce sont les geeks qui ont gagné avec 23% des votes. Je pense que le fait d'avoir ramené sans doute quelques fans des geeks par chez nous suite à leur invitation a un peu influencé le résultat.
La France gagne.
La France gagne. Pourtant, c'était beaucoup d'Américains dans la sélection.
Ah ouais, non, mais c'est parce qu'on a une BD de qualité.
Voilà, donc les geeks, franchement, c'est une bande dessinée qui va rendre vos séjours aux toilettes plus longs. Ce qui est un signe de qualité.
Et plus agréable.
Et plus agréable, voilà, exactement.
Mais par contre, ça va un petit peu vous faire mal au cerveau parce que vous allez dire oh, comme c'est cruel de se reconnaître dans une bande dessinée.
Oui, oui, non, mais la question, ça va être quand je vais aux toilettes, qu'est-ce que je prends, les geeks ou mon iPad? Tu vois,
En fait, moi là, mon choix était très vite fait. Oui, j'ai discuté avec Monsieur Portefeuille, Monsieur Portefeuille m'a dit prends les geeks. Tu vois,
oui, non, Monsieur Portefeuille est vraiment très fort.
Bah, c'est très bon conseil.
Voilà. On continue avec le prix Hémoglobine de la BD la plus gore. Et la BD la plus gore, de façon presque surprenante, je sais pas, mais peut-être parce qu'on n'a pas tout lu.
Bah, c'est la BD la plus gore en noir et blanc.
Oui, effectivement.
Ça c'est fort. Donc c'est The Walking Dead qui gagne. Et pour autant, c'est vrai qu'on ne voit pas une goutte de sang. Non, mais je suis désolé, est-ce que tu as déjà vu une goutte de sang rouge dans Walking Dead?
Oui, non, rouge, non, forcément.
Ah ben voilà. Voilà.
L'argument. C'était en lutte contre No Hero, qui là, pour le coup, était.
Ah oui, non, là il était bien rouge, oui.
Bien rouge. Mais c'est vrai que Walking Dead ne serait pas forcément rentré dans ma définition du gore. C'est pas très grand guignolesque. Mm. Mais bon, le vote tient la route.
The Boys est donc troisième quand même avec 13%. Mais surtout, je note quand même qu'il y a quand même beaucoup de psychopathes comme moi qui ont voté pour Baron samedi.
Ah, combien?
On a 10% de vote. Je dirais pas combien on est, mais on a 10%.
Ouais. Bah, c'est facile à calculer. Hein.
Bah, sur 60 personnes qui votent, 10%. Ouais. On était 6 à avoir voté quand même pour Baron samedi.
Ouais, ouais. Bande de psychopathes. On continue avec le dernier. Je crois qu'on a fait le tour. Qui va être le prix pour l'OBNI, l'objet bédéphile non identifié. Et là, je crois que c'est déconcertant tellement le vote n'a pas été serré.
Scott Pilgrim,
alors oui, c'est un vrai OBNI, avec un beau pourcentage.
45%. Mais c'est vrai qu'après, t'en as vraiment un qui se dégage et les autres sont très très proches, quoi. Parce que le trop grand vide d'Alphonse Tabouret, Jolie Ténèbres, Umbrella Academy sont entre 13 et 15% tous quoi. Logicomics 5%. Mmh. Pas été suivi là-dessus. Et le Gourmet Solitaire.
Voilà. Donc merci d'avoir participé. On est assez content parce qu'on est quand même monté jusqu'à 61 votes.
62.
62, pardon. 62 votes sur un des sondages. Bah on recommencera l'an prochain, peut-être autrement, peut-être différemment, peut-être avec d'autres catégories. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a toute l'année pour y réfléchir aux catégories. Donc
on... Ouais, on le fera pas à l'arrache.
Voilà.
Après un enregistrement.
On pourra peut-être faire une remise de prix et tout.
Ouais, non. Je te dis, il faut les inviter, bon, il faut se lancer. Et ça se trouve, peut-être que Warren Ellis pourrait venir. Il serait heureux peut-être de recevoir un prix comme ça dans le sud de la France.
Ouais, c'est vrai.
De se fader presque.
Puis, ça ne fait pas beaucoup de route. Hein.
Non, ouais, attends, ça va, un petit billet 1 500 € aller-retour.
Monsieur.
On l'invite?
Voir Renélis, il est anglais.
Oui, mais il vit plus là-bas. Hein.
Non, je crois qu'il vit encore en Angleterre, Warren Ellis. Ah oui. Je suis quasiment persuadé qu'il vit encore en Angleterre.
Ouf.
Voilà, je lui téléphonerai, je lui demanderai.
Ça va. Bon, on attaque un peu la BD parce qu'ils sont peut-être pas là non
Ouais,
plus pour
on
nous
attaque un peu
écouter,
la
quoi.
BD. On va attaquer le kiosque.
Bah si, en fait.
On va attaquer le kiosque. Voilà, bon, on a été un peu charrette sur les BD, ce qu'on avait à lire, etc., pour enregistrer les deux émissions qu'on enregistre maintenant.
Non, ça, il fallait pas que tu leur dises.
Ouais, mais moi je suis comme ça, je suis pour la
Du
transparence.
coup, tu vois, ils auraient dit, oh, ils sont toujours aussi bons comme d'habitude, alors que nous, on sait qu'on est à l'arrache.
C'est vrai. Oui, non, mais comme ça, si effectivement on n'est pas aussi bon, les gens pourront nous donner une excuse. Et donc nous allons parler de choses, de kiosques, histoire d'en parler, parce que après ça va être dur à trouver. Comme par exemple Siège. On a fait un peu l'impasse sur le tome 3, je ne sais pas pourquoi. Bon, il a dû
Bou, bou, bou,
rester coincé
bou.
chez je ne sais pas qui. Mais nous avons le tome 4 pour finir la série, donc nous allons parler du tome 3 et 4.
Mais j'avais une bonne excuse. C'est que j'étais en travaux et qu'il était perdu dans une des pièces des travaux. Alors du coup, j'ai mis du temps à le retrouver.
Ouais.
Mais il n'était pas perdu.
Ouais. Donc, scénario Brian Michael Bendis, dessin Olivier Coipel, le 3 et le 4, et donc ça c'est pour Siège, l'histoire principale, et ensuite la petite histoire qu'il y a derrière, avec Brian Reed au scénario et Chris Samnee au dessin. Qu'as-tu pensé de Siège? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe dans ces deux tomes, vite fait, hein, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on va éviter de spoiler
Hop, on
trop.
le fait rapide. Donc Norman Osborn est le directeur du Shield, enfin de tout en fait.
Hammer maintenant, c'est plus le
Oui, c'est le
Shield.
Hammer, voilà. Et donc du coup, il a récupéré une armure d'Iron Man et il dirige. Ce sont tous les super-vilains, on va dire, qui sont devenus les protecteurs du monde.
Ouais.
Il a à peu près les pleins pouvoirs et il décide d'aller taper très très fort sur les dieux d'Asgard.
Bon, faut savoir aussi qu'il a à peu près les points de pouvoir, mais je sais pas si tu te souviens de la petite histoire qu'on avait lue de Spider-Man, je sais plus dans quel tome, The List,
Ah oui.
où il a un peu les pleins pouvoirs, mais l'opinion commence à se retourner un peu contre lui.
On est au début, mais en même temps, enfin, ce passage-là, tu ne le sens pas trop dans Siège
On le
quand même.
sent pas, mais c'est un peu speed, hein, Siège, quand même. On n'a pas trop le temps de le sentir passer. Il faut savoir que Siège, c'est quand même quatre tomes qui racontent une baston. Quoi? Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Attends, je cherche. Ah, si j'ai déjà pensé Siège, on ne le sent pas passer. Non, mais arrête, quoi, c'est pas possible.
J'ai
Ah.
rien dit, attends, j'ai rien dit, c'est toi qui commences à faire ça sur des délires un
Bon,
petit
vas-y,
peu.
reprenons. Reprenons.
Donc on était à Siège. Alors oui, c'est donc quatre bouquins qui nous racontent une baston sur Asgard, pour Asgard, on va dire. Donc tu veux pas que je spoil la fin, donc bah, vas-y, on continue.
Comme tu bats en touche, trop facile. Bon, en gros, à la fin de tout ça, on va voir un nouveau statu quo. La phase d'après, la nouvelle séquence après le Dark Reign va s'appeler The Heroic Age. Donc, je vous laisse deviner que les gentils vont gagner. Hein, à la fin de Siège. Je
C'est pas
spoile pas
faux.
trop le résultat, hein, les
Non,
gentils
c'est pas
gagnent.
faux. Ouais, les gentils gagnent, ouais.
Les gentils gagnent. Il y a un bon gros retournement de situation que j'ai trouvé assez intéressant, mais.
Et non, mais je l'ai moi enfin, là je te coupe, mais je l'ai trouvé original.
Ouais.
Ouais, moi j'ai bien aimé. Et pourtant, tu sais qu'au début, Siège, je lis à peu près, je crois, j'ai tout dit dessus de manière négative. Mais franchement, je trouvais que la fin était sympa.
Bon, il règle l'histoire avec Sentry de façon.
Ça, par contre, ça c'est un peu expédié.
Voilà, un peu expédié. Parce que c'est vrai que Sentry est un personnage qui aurait mérité un peu plus, je pense. Je pense qu'il aurait mérité un arc aussi important que celui qui a vu sa naissance. Donc sa création. C'est un peu dommage. Mais ça augure quelque chose de neuf pour une nouvelle période. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Par contre, pour revenir sur sur les petites histoires, enfin petites histoires, l'autre série à côté, le journal de guerre de Siège. Est-ce que.
Ben, moi je trouve ça vraiment vraiment intéressant parce que ça montre aussi pas que l'aspect super-héros,
C'est le côté humain,
c'est
c'est
le
le côté
côté
médiatique
voilà,
surtout.
ben, le côté humain, après avec une bonne critique je pense de la société américaine là-dessus et sur comment est-ce qu'ils voient, on va dire, l'amusement et enfin le mélange entre l'entertainment et j'ai réussi à trouver mes mots, ça va venir,
Et l'info.
et l'info, merci,
L'infotainment, comme ils aiment dire.
l'infotainment, ouais.
Voilà.
Mais ça peut être particulier quand même.
Donc, un autre point de vue sur le conflit qui est assez intéressant toujours. J'aurais presque préféré que le crossover soit traité un peu plus en détail, mais sur ce point de vue-là. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a tellement branché Après, c'est vrai qu'il serait peut-être pas pu rentrer autant dans les détails. Enfin, avoir, je sais pas, un crossover qui s'est mis à te montrer dans la série principale les différents points de vue, plutôt que de faire des mini-séries au milieu, etc. Bon.
Ouais.
Voilà pour Siège. Chaque tome est à 4 €. C'est en kiosque chez Panini Comics. Je pense que le 3, à moins d'avoir une librairie spécialisée, vous aurez du mal à le trouver. Le 4, il va pas rester très longtemps. Et pour ce qui est de toute façon, il y a de grandes chances que d'ici la fin de l'année, ils en éditent un intégral qui sera directement en librairie, comme fait Panini pour tous ses gros crossovers. Enfin, quoique celui-là était court.
Ouais, enfin, il y a des intégrales qu'on attend toujours.
Oui, Allman Logan.
Ah, tu as vu? Tu le lis dans
Ouais,
mes pensées.
c'est fort. Hein.
Celui-là, je l'attends toujours quand même.
Ouais.
C'est celui que
Ouais,
je
il
voudrais
va arriver. Il va
acheter.
arriver.
Ouais, enfin bon, même quand je vais à Paris, ils l'ont pas, quoi. Voilà. Toi, ça te dit.
Vu que nous en sommes à 15 minutes 43, on va pouvoir parler de l'Ultimate Spider-Man numéro 5. Que dire de cette couverture avec Spider-Woman dessus?
D'une part, elle est pas aussi canon que celle de Malef.
Oui, mais enfin, celle de Malev, tu peux légitimement fantasmer dessus sans être un vieux pervers. Elle est adulte et tout, tu vois, elle a 17 ans sur la
Ouais, mais je suis
couverture.
instit en même temps.
Ah oui, d'accord.
Oups.
Ouais, hein?
Oups.
Ok.
Allez, on fait dans le léger aujourd'hui, hein.
Mais, et donc, oui, le.
Bon, alors là, le pitch de départ, bon, mais donc c'est que c'est 7 à la maison, hein. Tout le monde est en.
Ah, tu devais apprendre le morceau
Eh
de
ouais,
guitare
je
de le
devais.
faire.
D'un coup, j'y repense, en fait, tu vois, c'est pour ça. Et oui, donc, c'est la maison du bonheur. Plein de mutants, tout le monde vit en accord avec soi-même.
Ouais.
Oui, non, c'est ça. Et avec donc Tante May qui régit tout ça. C'est beau. Mais il manque une présence paternelle.
Ah.
Malheureusement.
Tu limiterais à ça ce que tu as lu de ces deux tomes? Tu t'en souviens plus du tout, t'es en train de faire du remplissage, c'est ça? Ouais.
Je suis démasqué. Non, je m'en souviens un peu, mais je pense que tu en parleras
Bon,
beaucoup
en
mieux que
gros,
moi.
ce qui se passe, c'est que Kitty Pryde, on vient la chercher à l'école. C'est quand même vachement plus intéressant en disant hey, tu es une mutante! Le gouvernement va t'embarquer! Et là, forcément, commence à y avoir des réactions dans l'école et ça commence à un petit peu partir en vrille. Et le côté un peu 7 à la maison commence à casser, justement. Et on arrive sur quelque chose que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. En plus, c'est La Fouente qui est revenue au dessin et j'adore ce qu'il fait. Il a fait plein de petits délires, il coupe les cheveux à Peter Parker en expliquant que ça lui fait une tête ronde sous son masque. Parce que les fans avaient fait le reproche que La Fouente le dessinait avec une tête trop ronde. Donc j'avais trouvé ça assez marrant comme approche. C'est super dynamique, c'est bien moderne. Il y a toujours ce côté teen drama, mais qui colle très très bien à la série, en fait, hein, Ultimate Spider-Man, qui pour moi, oui, a ce besoin-là. C'est de la bande dessinée pour ados, comme l'étaient les Spider-Man il y a longtemps. Et c'était l'objectif du Ultimate à la base. Très très sympa, la solution évolue bien. Kitty Pryde fait un peu les gueules à ses potes, parce que selon elle, ils n'ont pas pris les bonnes décisions pour la soutenir. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Enfin, c'est intéressant.
Ouais, mais ils ont fait. Un grand pouvoir te
Pouvoir
donne de
de
grandes
grande responsabilité.
responsabilités et t'oblige à faire des choix. Je veux dire, ils ont fait un choix.
C'est Barack Obama qui l'a dit dans un discours. C'est sérieux. Ou un truc dans le genre, je sais qu'il a cité un truc de comics dans un discours, c'était très fort. Bon, enfin, en tout cas, très sympathique. Moi, ça a un peu relevé le côté justement 7 à la maison qui commençait à me gonfler un peu du tome précédent. J'ai bien envie de savoir comment ça va évoluer. Ça, pour moi, il y a une petite remontée de pêche, quoi, puis de rythme surtout. Il se passe un peu des trucs, quoi.
Bah, on a un peu cassé la petite routine qui se créait.
Enfin bon, il a
Bon,
fallu 4 numéros, enfin 8 américains pour poser l'ambiance,
ouais,
quoi.
enfin, le grand méchant, on l'a plus revu pour l'instant, donc ça aussi, il faudra voir ce que ça va donner, quoi.
Un ton sympathique et toujours des dialogues très cool. On continue.
Avec le Batman.
Batman Universe numéro 4. Alors les Batman Universe sont durs à choper parce qu'ils se vendent comme des petits pains apparemment, au point que la série va passer à 120 pages au lieu des 96 actuelles. Trop
Donc c'est-à-dire
cool.
que ce sera plus à 4,60.
Oui, ça veut aussi dire ça. C'est pas plus mal. On va peut-être réussir à avoir du Batman un peu dans le rythme et à avoir le même rythme que les Américains. On a pas mal de retard là. Hein. Je sais pas si t'as entendu parler de la polémique qu'il y a eu sur
Non,
Batman
là je
récemment.
suis totalement vierge de toute
Alors, dans
polémique.
la série Batman récente, donc il faut savoir que là où on en est actuellement dans la BD, Bruce Wayne, en fait, c'est plus lui Batman, c'est Dick Grayson qui a pris le masque. Bruce Wayne a été envoyé, enfin tout le monde pense qu'il est mort, mais bon, tout le monde sait qu'il n'est pas mort. Il était envoyé à la préhistoire, machin chose, et puis il va revenir forcément, et monter son entreprise qui va appeler Batman Inc., qui va essayer d'embaucher des Batman un peu partout dans le monde. Une franchise de Batman. Pas mal comme principe, c'est original. Et donc bon,
c'est original, mais enfin là.
Donc c'est Grant Morrison qui mène ça, et donc oui, et donc il va faire ça pendant qu'il laisse l'autre Batman gérer Gotham City. C'est Dick Grayson qui reste Batman. Pourquoi pas ? Je trouve ça assez original.
Ouais, non, l'idée est originale, mais enfin là, faut voir. Hein.
Et donc il est allé s'en trouver un au Japon, donc il y a un petit tome de Batman Inc., c'est la nouvelle série. Et là, pour faire deux annuals, ils ont fait une série pour en France. Et donc, le nouveau Batman est un jeune Français d'origine algérienne et musulman qui vient de Clichy-sous-Bois. Je trouve l'idée très sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est original, que ça tient la route d'avoir un personnage qui fait partie d'une minorité pour en faire quelqu'un qui aurait la volonté de se dépasser pour devenir un peu un super-héros. Donc, il y a un côté Yamakasi et compagnie, hein, parce que c'est la France, Besson, Yamakasi, enfin voilà. Et bien sûr, une certaine tranche de droite américaine a trouvé que c'était une honte que ce ne soit pas un vrai Français avec un béret et une baguette sous le bras. Voilà.
Eh bien, dans leur cul, hein. C'est pas
voilà.
Grave.
Voilà.
Hein.
Bon, David Hein, c'est le scénariste, est anglais. Je pense qu'il a choisi ça en se basant sur les événements, les émeutes qu'il y a eu pour mettre de l'actualité dans son histoire, montrer en plus le côté musulman d'une autre façon. Je trouve ça assez intéressant. Bon, apparemment, je ne l'ai pas lu, mais c'est bourré de clichés encore. J'attends que ça arrive en France pour savoir comment, quelles vont être les critiques, voir s'il va y avoir une réaction. Je dirais que c'est un non-événement. Je pense qu'il y a eu un peu de réaction de la droite conservatrice américaine et que tout le monde, comme ça parle de la France, en parle en France. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit si énorme comme événement que ça et qu'on en fait beaucoup tout un foin pour rien. C'est pour ça qu'on va revenir sur la série normale Batman Universe 4
sans compter
comme chez nous.
S'il fait une franchise, ça veut dire que tu vas en avoir partout dans le monde.
Oui.
Donc je pense que celui de France, on va en parler à peu près sur 3 pages.
Voilà, alors il y a les gens qui te disent... Bah là, il y a quand même 2 numéros hein, qui en parlent.
Ouais, enfin... voilà. Oui, mais sur l'ensemble, ça ne va pas non plus durer pendant des années, quoi.
Mmh. Voilà, hein, et le Batman tunisien.
Il a du taf en ce moment.
Ouais, il a du taf en ce moment. Donc le Batman Universe numéro 4, scénario, donc on a... Toujours 2 séries Batman. La première scénarisée par Jude Winnick et dessinée par Mark Bagley. Quelle belle transition après avoir parlé d'Ultimate Spider-Man, qui a été dessiné par Mark Bagley pendant plus d'une centaine de numéros. Donc on continue avec Dick Grayson qui essaye de faire la main en tant que nouveau Batman.
De rentrer dans le costume, quoi.
Voilà. Et sauf qu'il y a la pègre qui est en train de bien s'organiser derrière, avec une lutte entre Double Face et le Pingouin pour prendre le contrôle de la pègre. Sauf qu'il y a un petit entremetteur qui arrive sur place, c'est Black Mask.
Black Mask.
Sauf qu'il y a un truc qu'on n'est pas censé savoir, nous, parce qu'on ne l'a pas lu, c'est que Black Mask est censé être mort, donc on ne sait pas qui est Black Mask. Donc là, il y a un gars avec le costume de Black Mask, mais c'est... apparemment, ça ne peut pas être le Black Mask original. Tu vois le mystère.
Donc en fait, il y a aussi une bataille pour le masque noir, en fait.
Ouais, peut-être. Et bah, c'est des côtés que j'aime bien dans les Batman de ces derniers temps, c'est le côté un peu la lutte de la pègre et le Batman au milieu qui fait ce qu'il peut. Qu'en as-tu pensé ?
Un scénario intéressant, parce que justement, des infos filtrent des deux côtés, on commence à avoir donc le nouveau Batman, on va dire Batman, hein, ce sera plus simple. Batman, donc, lui aussi se doute que ce qui lui arrive comme info n'est peut-être pas toujours dénué d'intérêt, que peut-être bien que quelqu'un essaye donc, justement de le manipuler. On a aussi, je trouve, alors c'est des passages assez courts, mais des passages intéressants avec Alfred.
Oui, les passages avec Alfred sont super sympas sur la relation entre Alfred
voilà.
et
Batman, enfin l'ancien Batman et le nouveau Batman. C'est des passages voilà qui font que il rentre dans le personnage tout en créant aussi un vécu avec l'ancien. Et c'est vrai qu'on se dit que voilà, Alfred, il a joué beaucoup de rôles pour l'ancien Batman. C'est
il a même été Batman à un moment.
Je l'ai pas vu celui-là, je l'ai
c'est
pas
longtemps.
Lu. Ouais. Mais... J'étais peut-être pas né. Ouais. Et donc voilà, donc vraiment un scénario intéressant. La mise en page est quand même vraiment toujours aussi dynamique. Les bastons sont quand même assez sympas. Et même si je le décris au début, je trouve que là le tournant est sympathique.
Moi je sais que j'ai un peu du mal avec Mark Bagley en fait, au dessin.
Ouais.
J'ai toujours eu du mal avec ses visages. Alors quand il y a les costumes, les masques, etc., je trouve que ça pue un classicisme un peu trop classique, tu vois. C'est trop propre, et dès qu'il arrive sur les visages, c'est pas clair, c'est pas net, ils ont l'air un peu difformes d'un dessin à l'autre. Je suis pas très très fan de Mark Bagley. Donc ce qui est marrant d'ailleurs, en parlant d'Ultimate Spider-Man, il y a beaucoup de... Je crois que c'est chez Comic City, ils disaient qu'ils adoraient Bagley et qu'ils détestaient La Fouine, tu vois, alors que moi, c'est totalement l'inverse. Voilà, c'est qui ? C'est chez Bulle Onomatopée, qui maintenant... publie aussi des podcasts en ce moment, qui a donc Ginny qui disait qu'elle ne trouvait pas génial le dessin de Bagley, et je la rejoins assez sur ce point.
Je serais peut-être un peu plus nuancé. Je ne voilà, tirerais pas sur l'un pour aimer l'autre. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant les deux.
Et on a enfin un ou deux épisodes, je ne sais plus, de Batman et Robin, avec Grant Morrison au scénario, et Philippe Tan au dessin. Donc qui là va s'intéresser plus à la relation entre Dick Grayson et Damian Wayne, le petit con.
Il est pas... je trouve que c'est un petit jugement de valeur quand même.
Ouais, enfin bon, il est là un peu pour nous horripiler, il le fait bien, et je le trouve très intéressant comme personnage. Du fait qu'il soit horripilant, il est là pour ça. Quand tu penses à Dick Grayson qui a toujours été le Robin parfait, qui faisait bien comme il fallait avec les blagues au bon moment, parce que tu comprends, c'était le Robin qui n'était bien. Et Damian Wayne qui fait un petit peu plus. Merde quoi, il a été élevé par des assassins.
Ouais, enfin, il lui dit que son taf est quand même pourri quoi.
Mais il fait aussi ses erreurs, ce petit Damian Wayne, et on a la relation qui est en train de se former entre les personnages, qui commence à se choper un peu de la confiance petit à petit.
Bah, je dirais que la relation entre le Batman et Robin, c'est pas juste une relation de filiation quoi. Tiens, je trouve que t'as une vraie relation d'alter ego qui se crée. Bah, disons que le Robin n'est plus en dessous du Batman.
Ouais, non, il y a un côté plus mentor parce que je trouve que filiation, parce que là c'est vraiment le bon, écoute petit con, tu vas faire des conneries, tu vas apprendre de tes conneries quoi.
Oui, mais enfin, ce côté mentor tu l'avais vraiment sur les autres. Là je trouve vraiment c'est plus un ils sont à égalité. Alors il y en a qui tirent la couverture plus que l'autre, on est d'accord, mais le Robin n'est pas l'élève quoi.
Enfin, c'est ce qu'il croit, mais moi je trouve que justement, enfin, moi l'impression que ça me donne,
c'est en fait le plan machiavélique de Batman pour lui faire croire qu'en fait il n'est pas le maître et que
non. Moi ce que je trouve vraiment, c'est que le côté ado est très très bien géré en fait. Alors ce côté ado rebelle qui croit qu'il sait. Sauf que dans tous les autres Robin, quand t'avais le Robin qui arrivait, qui se la pétait, genre je crois que je sais, ça durait deux épisodes quoi. L'adolescence, c'est pas deux épisodes.
Ouais, mais en même temps, quand il y a des moments aussi, ce qui dit à l'autre Batman, c'est juste.
Oui, il y a des choses aussi. C'est énervant aussi.
Il y a des choses qui, enfin voilà, il y a pas que des conseils. J'ai raison parce que j'ai 15 ans et j'ai déjà tout vu quoi. Il y a aussi des choses qui sont plus dans la nature de Batman.
Que ça, il est plus jeune que 15 ans, ouais. Je crois qu'il a 12 ans, un truc comme ça. Enfin,
en tout cas, il est déjà super balèze.
Ouais, oui. Enfin bon, ça crée une relation vraiment intéressante entre les personnages. Et j'ai hâte de voir.
Quand Alfred parle de sa table de nuit, qu'il dit ouais, parce qu'en fait, Monsieur Wayne a la fâcheuse habitude d'avoir toujours besoin d'avoir à côté de lui des objets tranchants, coupants pour s'entraîner à tout moment de la journée.
Oui, oui. Le môme psychopathe. Achète-toi une enfance, quoi.
Il a été élevé comme ça.
Ouais, il a été élevé comme ça. Donc voilà pour ce Batman Universe numéro 4. Et comme nous allons enfin vous expliquer la blague qu'on a fait à 2 secondes du début du podcast, car nous enchaînons directement sur notre intégrale.
Et là, c'est du lourd.
C'est du lourd. Nous allons parler de Julius Corentin Hackefack, prisonnier des rêves, de Marc-Antoine Mathieu.
Et là, déjà, juste la lecture peut vous faire mal à la tête. La relecture, 5 ans après, vous fait toujours autant mal à la tête.
Mais en bien.
Mais vraiment en bien.
5 tomes chez Delcourt. 5 tomes qui vont, en fait, s'intéresser au code de la bande dessinée. C'est de la mise en abîme permanente. Et c'est assez bien foutu. Alors parlons, pour commencer, de Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu a été, il l'est sans doute je crois aussi, scénographe dans l'atelier Lucilum, scénographe qui a fait beaucoup d'expositions pour le Festival d'Angoulême, et aussi pour BD à Bastia, moi j'en ai vu quelques-unes à BD à Bastia, qui étaient assez superbes. En gros, il va te changer un espace totalement, l'une de celles que j'avais vues, on rentrait dans une pièce et on avait des livres qui volaient tout autour de nous. T'avais l'impression d'être dans une bibliothèque avec les livres qui s'envolaient. Une autre, il avait fait une gare post-apocalyptique, avec toutes les consignes que tu as à moitié enfoncées dans le sable, quand tu les ouvrais, tu pouvais regarder, il y avait des planches de BD originales dedans. Il y avait la sorte de café de la gare où ils avaient enchaîné des ouvrages de BD dessus, mais des ouvrages de BD genre Sin City, des ouvrages vraiment du roman noir et compagnie. Donc un travail sur l'espace vraiment bien mené. Et un travail sur l'espace qu'on va retrouver dans ces BD-là. Marc-Antoine Mathieu a un style graphique, parce qu'on va peut-être commencer par ça, parce que c'est un peu le même tout du long.
Oui.
C'est au moins une certaine continuité. Donc il travaille en noir et blanc, avec beaucoup d'aplats, pas de gris, des aplats noirs. C'est très tranché, c'est très stylisé. Il joue beaucoup sur le clair-obscur, la différence entre la zone d'ombre et la zone de lumière, dans ses mises en page. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près décrit son style graphique. Un petit côté Mignola.
Ouais, après, on pourrait aussi. Moi, je pense qu'on pourrait faire un très gros rapprochement avec, dans cette narration, justement, par l'image, avec Scott McCloud.
Oui, parce qu'il y a une étude voilà, des codes. Il y a cette étude voilà, des codes de la BD.
Qui est vraiment presque. C'est didactique, quoi. Il est en train de. On suit l'histoire en même temps qu'on navigue aussi au milieu donc de mises en page qui sont des fois alambiquées, de jeux au niveau des planches, des trous dans les planches, des découpages, des on en prend plein les mirettes.
Alors, qui est ce Julius Corentin à Queufac?
C'est un fonctionnaire du ministère du rire.
De l'humour. La ministère de l'humour.
De l'humour, oui. Oui, parce qu'il y a le service de la blague et le service du rire.
Oui, c'est deux services du ministère de l'humour.
Bon, voilà, le ministère de l'humour. Et en fait, c'est un travail très sérieux qu'il fait, donc il doit juger quelles sont les blagues qui peuvent être éditées et qui peuvent être donc justement retenues dans les archives.
Donc il vit dans un univers assez bizarre où il y a une surpopulation phénoménale. C'est-à-dire que les gens marchent à pied et en gros, pour faire une sortie, il faut réussir à passer entre les gens en se baladant dans le flux de circulation des gens qui sont tous serrés les uns contre les autres. L'espace vital est superbement
mesuré.
Sachant que par exemple, il a un colocataire dans son placard dans le tome 2. Son voisin de palier, en fait.
Il vit sur le palier.
Il vit sur le palier. Donc c'est pour ça que c'est le voisin de palier, c'est une évidence en fait. Enfin plein de trouvailles qui en plus il en rajoute toujours d'un tome à l'autre. Des moyens de déplacement par exemple.
Ah les taxis après.
Oui, alors des taxis vélos qui se baladent sur des fils, qui passent entre dans les maisons.
Les wagons.
Ouais, il y a
les wagons de mine en fait. Hein.
Voilà, où les gens se... Quand ils se retrouvent dans une pente, ils doivent pousser pour continuer à monter. Plein de trouvailles sympas. Et il y a un gros problème, ce Julius Corentin, c'est qu'il fait beaucoup de rêves. Et des rêves qui influent sur la réalité. Car il rêve qu'il rêve. Et quand on rêve que l'on rêve, le rêve que l'on fait du rêve
devient réalité.
Devient réel. C'est bon ?
Oui, parce que rêve fois rêve, ça fait rêve au carré. Et donc ça fait réalité.
Voilà, rêve au carré égale réalité. On a toute une explication bien, bien, bien menée de tout ça. Bon, clairement, on est dans de l'absurde. au niveau du scénario.
Oui.
On est dans de l'absurde. Tous les tomes commencent par une citation « L'humour a ses raisons que la raison ignore ». Et c'est tout à fait ça. Il nous joue sur l'humour en allant au-delà de la raison, en faisant du n'importe quoi et en jouant avec son support.
Enfin, du n'importe quoi, mais qui est vraiment pas fait n'importe comment.
Voilà.
C'est, je sais pas comment est-ce qu'il travaille, mais pour écrire ces scénarios, c'est monstrueux, je pense.
Je trouve que ça rejoint un peu le travail qu'on peut avoir à Lou Bapo. Donc Lou Bapo, c'est l'ouvreur de bande dessinée potentielle. C'est un mouvement qui est calqué sur l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle. L'Oulipo était connu beaucoup pour les travaux, j'ai oublié le nom, celui qui a fait le livre sans eux, La disparition, Georges Perec. Et donc c'est le même principe, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut jouer avec les formes, les façons de raconter pour... travailler sur des formes différentes. Par exemple, on peut trouver, là j'ai vu, ils l'ont à la Bédérie, une bande dessinée en dés. Et en fait, tu peux mettre les dés dans les cubes dans n'importe quel sens, et chaque phase va te faire une histoire. Voilà. C'est des trouvailles dans ce genre-là. Les BD que tu peux lire dans les deux sens. Voilà. Donc, et il joue là-dessus. Donc, dans le premier tome, il s'intéresse à l'origine. Sauf que personne ne sait ce qu'est.
Le mot origine. Il n'existe pas dans le dictionnaire.
Dans ce monde-là, le mot origine n'existe pas. Et donc, ils vont commencer à se balader pour essayer de découvrir quelle origine. Parce que Julius Corentin reçoit des
pages de BD
qui sont sa vie, en fait.
Et qui sont des passages de sa vie.
Donc, c'est une vraie mise en abîme. Alors, au début, il reçoit une page de BD d'un truc qui va se passer après.
Non, qui s'est déjà passé. La première, elle s'est déjà passée.
Ouais.
La deuxième, elle s'est passée il y a quelques secondes.
Elle se passe au moment où il la lit.
Ouais.
Et après, ça se passe après. Et donc, on voit qu'il va essayer de retrouver, en fait, quelle est son origine. Et pareil, il y a toujours une petite trouvaille super géniale dans ce tome-là. C'est un trou de matière. Super bien amené. D'ailleurs, tu tombes dans le panneau la première fois que tu y arrives. En gros, il y a un trou dans la planche, ce qui fait qu'on voit la case de dessous. Et d'un point de vue narratif, ça tient la route. Et quand on tourne la page, le trou, il est de l'autre côté. Et d'un point de vue narratif, ça tient encore la route.
Ça tient encore la route.
C'est superbement trouvé. En dehors de ces pérégrinations super bien menées, que dire, c'est peut-être le truc sur lequel j'ai le plus de mal, ce sont les chutes. les fins. On a l'impression qu'il fait son expérimentation et qu'il ne sait pas comment finir.
Je ne suis pas certain qu'il faille le prendre comme une fin en soi.
Bah, disons que les deux dernières phrases du premier, c'est « Et nous sommes à la page 42 ». Je crois même deviner que nous sommes en fin de page 42.
Oui, c'est vrai, mais c'est
joli. Alors, attention, je vous le dis, je ne considère pas ce que nous sommes en train de faire comme du spoil. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui se lit pour l'intérêt de ces démarches.
De l'ouvrage, mais enfin, comme je disais, voilà, il n'y a pas de fin. C'est, pour moi, c'est les chutes des histoires, les fins d'histoire, c'est pas l'intérêt d'une part du livre n'est pas là, et je ne suis même pas certain que ce soit réellement... on va dire voilà quelque chose qui doit d'un coup te faire changer ta façon d'avoir vu le truc ou la fin n'a pas je m'embrouille mais j'aimerais te faire ressentir quoi il y a pas d'intérêt quoi en cette fin.
Non, il y a un intérêt mais ouais mais on a l'impression que l'histoire n'est pas finie, c'est-à-dire que il est arrivé au bout de sa démarche, de sa démonstration, mais au niveau narratif, on a l'impression que ça nous laisse vraiment
j'ai pas eu cette sentiment d'arrêt, tu vois. Je pense que moi je l'ai plus pris dans une démarche voilà, de originale vis-à-vis de la narration. Comment est-ce que je pourrais raconter l'histoire de manière différente ?
Oui. Donc, nous arrivons au deuxième tome qui s'appelle La queue.
Faut pas dire le mot.
Chut. Donc là, il joue aussi sur le côté narration. À chaque fois que quelqu'un va dire le mot, il est coupé.
Et on peut pas le dire encore parce qu'il a pas été inventé.
Je viens de me rendre compte qu'en lisant le premier chapitre, en fait, tu as quasiment la réponse. Ou en gros, bah pareil, il rêve. Alors là, en plus, il nous rajoute des photos à l'intérieur. Des photos de son atelier pendant qu'il est en train de dessiner. Et où les personnages tombent dans le noir, c'est-à-dire l'encre de Chine.
Ou le café.
Pour moi, c'était l'encre de Chine. Hein. Attention.
Pour moi, je crois que c'est du café. Hein. Je crois que c'est une tasse, mais...
Ah oui, c'est une tasse. Ouais, mais c'est peut-être de l'encre de Chine pour travailler. Bon, j'en sais rien. Ouais, il a l'air d'avoir un sucre sur le côté, donc effectivement, c'est un café.
Peut-être qu'il met du sucre dans son langue de Chine, écoute, ça se respecte. Hein.
Ouais, ouais. Là, pour le coup, Jules Corentin est victime d'une... Comment ?
Un procès à la Kafka.
Ouais, un procès à la Kafka. D'abord, on va analyser chez lui qu'il respecte bien tous les environnements et qu'il ne perd pas d'espace. Sauf que, pas de bol, c'est un piège qu'on lui tend pour l'emprisonner. J'explique pas comment on le piège, c'est énorme. Et donc, il a le droit à ce procès qui, en fait, n'est qu'un prétexte pour le forcer à essayer de trouver ce qu'est la queue.
Bah, donc, dans ce tome-là, tu te retrouves avec une sorte de groupuscule qui est derrière et qui visiblement essaye de manipuler sa vie, quoi, qui l'amène dans une mission.
Dans une mission. Et donc il part, il doit trouver une gare qui est au milieu du rien. Il finit par trouver la gare, enfin c'est la gare qui le trouve.
Mais je crois que dans le style, il s'est quand même vraiment inspiré de Kafka et de Camus. Quoi.
Oui.
Enfin, t'as des références qui sont assez énormes de ce point de vue-là.
Oui.
Et après, le passage à la
quoi ? Tu sais quoi ? Je couperai le mot que t'as dit, comme ça on spoilera pas. La queue.
Ah, excuse-moi.
Ouais, non, mais là c'est un peu spoil.
Oh, c'est un peu spoil, ça va. Oh.
Ouais, un peu. Hein ? Bon.
Ensuite, bon, je pense qu'il va même falloir.
Le processus.
On va peut-être pas faire tous les tomes.
Alors, oui, puis... bon, on va les faire, c'est bientôt fini, on est au troisième. Le processus, lui, joue beaucoup sur la spirale. Il y a une spirale en relief dedans, et ça, c'est magique. C'est super bien trouvé. Comme d'habitude, là, en fait, il vient se parler à lui-même. Il y a toute une histoire de délire, de voyage, pas dans le temps, de voyage dans la narration. Toujours très bien mené, et cette spirale qui est magnifique, et qui va vraiment... Toute l'histoire est construite en spirale, en fait, d'un point de vue narratif, et c'est très très bien mené.
Surtout, c'est que tu comprends... Enfin, ouais, j'allais dire... C'est très évident ce que je veux dire, mais... Tu ne comprends la spirale que quand tu finalement es arrivé. Et...
Oui, enfin, c'est. Il est un peu dur celui-là à comprendre, je trouve, au niveau de l'intrigue. Ensuite, on arrive à celui que je ne sais pas nommer. Car il est génial. En fait, il se lit dans les deux sens.
Il s'appelle le début de la fin.
Ou si la on tourne la BD, début. C'est la fin du début. Et en fait, si on lit le titre sur la tranche, c'est.
L'épaisseur du miroir.
Voilà, tu l'avais pas vu.
Non.
Voilà, dans ta bibliothèque, t'as une BD qui s'appelle L'épaisseur du miroir. J'ai l'épaisseur du miroir, je me souvenais pas. Parce que, bon, voilà. En gros, elle se lit dans les deux sens. Et on a, en fait, c'est une question sur le choix. Hein. Et donc, au début, juste quand on fait un rêve, où il va avoir un choix qu'il va faire. Si on tourne dans l'autre sens, il va faire un autre choix. Puis un choix super difficile, hein, c'est pile ou face, hein, le choix.
Ouais.
Et il va avancer dans la BD jusqu'à croiser le miroir.
Le psyché.
Le psyché, qui va retourner la BD. Et donc, cette bande dessinée se lit dans un sens jusqu'à la moitié, et dans l'autre sens jusqu'à la moitié.
Avec des pages en plus qui se lisent dans les deux sens.
Oui, il y a quelques pages qui se lisent dans les deux sens. Ce qui est assez perturbant au départ.
Oui, mais c'est pas que les pages du milieu, parce que tu peux faire aussi avec les deux côtés du début.
Oui.
Si tu regardes pas les. Enfin, sans le texte, elle fonctionne aussi. Toujours par le même principe, c'est les deux débuts en fait, hein, justement, du monde du Paris. Et voilà. Graphiquement, là, on commence à arriver sur du truc qui est quand même, voilà, une construction qui est très intéressante.
Et puis une construction graphique, enfin, superbe encore. Et enfin, le dernier tome, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, j'ai un doute.
Je ne pense pas.
La 2,333e dimension. En fait, jusqu'en rentrant avec Fak dans un de ses rêves au carré, perd un point de fuite.
Il perd un point de fuite. Et sans, avec un seul point de fuite,
bah, tout est plat.
Tout est plat.
Et donc, il doit essayer de retrouver le point de fuite. Alors là, on se retrouve pareil avec des illusions de profondeur. Il joue sur tout un plan là-dessus, sur la perspective, en fait. Il cherche ce point de fuite pour comprendre. On est vraiment sur la dimension. Et la particularité, voilà, de cet épisode-là, en dehors des clins d'œil aux autres univers, parce qu'il s'éloigne pour aller au-delà de son univers et il voit qu'il y a d'autres univers et donc d'autres bandes dessinées, c'est qu'il y a tout un passage en lunettes 3D qui sont fournies avec...
La bonne lunette.
Voilà. Non seulement il s'amuse à faire de la 3D, mais il s'amuse aussi à faire du mal de crâne, des effets qui sont complètement fracassants au niveau du cerveau. Et le mec dit, hein, attention, ça c'est une zone, ça fait mal à la tête, hein, et effectivement ça fait un peu mal à la tête à regarder. Et le rêve au carré qui s'achève pour recommencer. Le rêve au carré. Donc, vous comprendrez que les aventures de Julius Corentin à Kefak, prisonnier des rêves, nous, on a beaucoup aimé. C'est un petit bijou de bande dessinée qui, non seulement est intelligent à lire parce qu'il analyse les codes, ses propres codes, en fait, mais qui, en plus, par son humour absurde, pour peu qu'on apprécie l'humour absurde... Hein,
j'allais dire, voilà, faut quand même... je pense que c'est moins accessible qu'un Scott McCloud, quoi. On est moins dans la didactique. Oui. C'est voilà, je dirais, si vous avez envie de faire d'initier quelqu'un à la bande dessinée, Marc-Antoine Mathieu, c'est peut-être pas pour tout de suite.
Oui, il faut quand même, je pense, pour l'apprécier pleinement, avoir lu un peu de bande dessinée derrière. Être familier avec les codes de la bande dessinée. Voilà. C'est vrai que oui, non, mais ce n'est pas du tout didactique. Scott McCloud, lui, est didactique.
Oui, Marc-Antoine lui t'explique.
Mathieu n'a pas cette volonté.
Ouais, enfin, oui, non, mais j'ai peut-être, voilà, c'est dans la continuité. Tu fais Scott McCloud, une fois que tu es bien dedans, tu fais du Marc-Antoine Mathieu, qui joue encore plus avec les codes.
Ouais. Bref, un très, 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 une très, très bonne série, assez courte. Je crois que chaque tome doit tourner dans les 12,50 €. Ce que je trouve assez surprenant, parce que je pense qu'en termes de fabrication...
Ça doit revenir plus cher.
Ça doit revenir plus cher qu'un tome classique. Voilà. Le fait de fournir des lunettes 3D, d'avoir des pages...
Moi, c'est la spirale. Enfin, ça, je ne sais pas comment est-ce qu'ils la font. Hein.
Ah oui, dans la spirale, je ne sais pas combien c'est... Ils ont des petits chinois dans leur cave, chez Delcourt, peut-être, pour...
Qui coupent l'herbe à la serpette.
Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer qu'ils se sont même amusés à détourner, sur la couverture du dernier, le logo Delcourt.
Ah ouais.
J'avais pas fait gaffe, qui est légèrement détourné. Enfin bref, plein de trouvailles géniales. Je le recommande chaudement. Et ben, je crois que vu qu'il est 43 minutes 22, non, ça serait peut-être temps de passer
à l'online.
Petite online aujourd'hui.
http://yatuu.free.fr
Yatuu, c'est une jeune stagiaire dans la com, qui est apparemment stagiaire depuis à peu près 2 ans. C'est bien des stagiaires dans la com. Qui, en gros, raconte un peu ses mésaventures de façon humoristique, très sympathique. Alors, il y a un humour que j'aime beaucoup. Alors, le dessin est peut-être le truc qui pêche un peu... Même si on note une énorme amélioration entre les premières planches et les dernières. Je le trouve un petit peu sec, un petit peu... manque un peu de mouvement. Par contre, au niveau de la narration, de la façon de mettre en scène les blagues, c'est très très bien mené. C'est plein de petits sketchs très sympas, les mises à jour sont pas très régulières. Mais bon, je pense que quand on est stagiaire dans la com, on n'a pas que ça à faire que faire des petits Mickey. Donc franchement, allez y jeter un œil. Moi j'ai bien aimé, c'est ma petite recommandation online du mois. Et j'en ai encore des tonnes parce que mais je voulais faire un truc français aujourd'hui et c'est le dernier truc français que j'ai remarqué. Et ben voilà.
Ben voilà, moi je l'ai pas, encore une fois, le online ne m'a pas.
Mais toi tu lis pas online, alors que voilà, tu vois, tu te plains que t'as pas de budget pour acheter des BD et tu lis pas les trucs gratuits. Hein?
Oui, mais la discussion sur tu vois, le numérique, je l'ai déjà faite.
Ouais,
Moi,
bon.
non. Le livre, il faut le toucher, il faut le sentir, il faut pouvoir.
Mais c'est vrai qu'imprimer des pages de blog, ça coûte
Tu
vite
vois,
cher.
tu l'ouvres et tu le sens, le livre. Ça, c'est
Ouais.
bon, ça.
Eh bien, vous pouvez donc nous retrouver sur lavoixdesbulles.fr.
Qu'est-ce qu'il est beau, ce site, quand même.
Ouais, donc vous aurez tous nos liens pour nous joindre.
Toutes nos liens.
Tous nos liens, oui,
Toutes
tous
nos
nos
liens.
liens.
Nous aurons tous nos liens. Nous parlons donc aujourd'hui à la québécoise.
Oui. Merci de nous écouter.
Merci à tous.
Et à bientôt.
Ciao! L'anneau et qu'ils ne rebondissent pas, qu'ils fassent. C'est-à-dire, en fait, tu fais.
Bah justement, c'est pour montrer son poids qu'ils
Mais
fassent
justement, tu vois,
c'est des CGI.